Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir au lycée professionnel. À l'ordre du jour ce soir, réforme du lycée professionnel, quelle ambition pour les élèves? Depuis le 13 septembre dernier et le voyage du président de la République au lycée Éric Tabarly des Sables d'Olonne, la promesse d'une réforme des lycées professionnels se fait beaucoup plus proche. Mais les manifestations des enseignants du 18 octobre dernier ont montré que les attendus de cette réforme pouvaient être discutés. Ce que le ministère, chargé de l'enseignement et de la formation professionnelle, a affirmé d'ailleurs de son côté en expliquant que les grandes lignes présentées par le président de la République n'étaient pas écrites et était en discussion dans des groupes de travail, quatre groupes de travail jusqu'à la fin de cette année. Mais quels sont les enjeux de cette réforme? Pourquoi ce secteur éducatif nécessite-t-il d'être transformé? Quel rapport avec la transformation récente de l'apprentissage? Nous allons en discuter avec nos trois invités, avec Carole Grandjean, bonsoir.
Bonsoir, merci.
Vous êtes ministre délégué auprès du ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion et du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et c'est cela la nouveauté. Vous êtes chargé de l'enseignement et de la formation professionnelle. Merci d'avoir accepté notre invitation avec nous à distance depuis France Bleu à Toulouse. Prisca Kergoat, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, professeur des universités à l'université Toulouse Jean Jaurès. Vous êtes également directrice du CERTOP, le centre d'études et de recherche travail, organisation, pouvoir, et autrice d'un livre tout récent aux éditions La Dispute, de l'indocilité des jeunesses populaires, apprentis et élèves de lycées professionnels. Enfin, troisième invité, Milena Fissier-Hénard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de lettres, histoire, géographie au lycée Paul Langevin de Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, un lycée professionnel. On en parlera avec vous.
Apprenti pas abruti, c'est l'une des pancartes que l'on pouvait lire dans le cortège lyonnais. Les enseignants défendent leur discipline, le savoir que reçoivent leurs élèves qui ont entre 15 et 18 ans. Exemple Laetitia qui enseigne la biotechnologie.
Face au monde de l'entreprise, moi je suis dans un lycée hôtelier et les élèves ils ne sont pas assez armés si on ne leur donne pas une base solide en culture générale, en français, en maths. Ils sont encore très malléables dans l'esprit, donc c'est un risque de les mettre directement entre les mains de professionnels qui n'ont pas toujours les mêmes objectifs qu'eux.
Cette journée d'action vise surtout à faire abroger la mesure phare de la réforme gouvernementale, l'augmentation de 50% des heures passées en entreprise, 33 semaines sur les 3 années, contre 22 actuellement. Séverine Brelot est professeure dans l'Ain et milite au syndicat SNUAP-FSU.
Il faut aussi savoir que les enseignants de lycées professionnels viennent pratiquement tous, et même tous pour l'enseignement professionnel, du privé. Ils ont tous bossé en entreprise. L'entreprise et les patrons, on connaît, il n'y a pas de souci.
Donc, il faut des semaines de stage, mais il n'en faut pas trop.
Alors voilà, c'était un reportage de Mathilde Imberti, correspondante de Radio France à Lyon. Les enseignants des lycées professionnels manifestaient le 18 octobre dernier pour protester contre le projet de réforme du gouvernement. Est-ce que vous avez été surprise en tant que ministre délégué, Carole Grandjean, de vous trouver face à cette manifestation assez nombreuse et assez réussie?
Au fond, ce que les enseignants expriment par là, c'est leur inquiétude et c'est leur volonté de faire réussir le lycée professionnel et volonté que nous partageons. Et je tiens évidemment à les rassurer sur le fait que nous sommes, je crois, tous en partage d'une priorité commune, qui est celle de mettre les jeunes en situation de réussite. Et donc évidemment, cette grande transformation, elle appelle à un certain nombre d'interrogations, de questions, pour lesquelles aujourd'hui, ils n'ont pas toutes les réponses, puisque nous avons engagé un travail de concertation, et que ce travail de concertation, eh bien, il laisse encore un peu en suspens quelques réponses, et sur lesquelles je tiens absolument à associer l'ensemble des acteurs qui doivent pouvoir consolider avec nous les orientations de la grande réforme.
Mais est-ce que vous comprenez, Madame la Ministre, que quand un président de la République énonce des lignes de force, ce qui a été le cas en particulier donc le 13 septembre dernier lors de son voyage au Sables d'Olonne dans un lycée professionnel, on se dit c'est la parole présidentielle, c'est pas tellement discutable d'une certaine manière et qu'on s'étonne qu'il y ait une discussion qui soit entamée après la parole présidentielle.
Alors, c'est la première fois qu'un président de la République s'implique à ce point dans une réforme du lycée professionnel et qu'il porte la voix du lycée professionnel comme une voix d'excellence. Et je crois que c'est un formidable signal qui est envoyé au lycée professionnel. Au fond, ce qui est pour nous essentiel aujourd'hui, c'est d'accompagner cette jeunesse. C'est un tiers des lycéens qui passent par le lycée professionnel aujourd'hui. Et c'est donc un tiers de jeunes qu'il nous faut accompagner vers la réussite. Et quand le président de la République porte la voie professionnelle à ce titre, c'est qu'il est évidemment convaincu que, comme nous l'avons fait avec l'apprentissage, nous pouvons faire avec le lycée professionnel une vraie transformation qui emmène les jeunes vers la réussite. Aujourd'hui, seul un élève sur deux qui est diplômé réussit à s'insérer
de
lycée professionnel.
Oui, bien sûr, c'est la question.
Réussit à s'insérer 2 ans après l'obtention de son diplôme. Ça pose plein de questions. Et donc, évidemment, il est dans notre responsabilité et du pacte républicain que d'accompagner ces jeunes vers une réussite et vers le changement d'image aussi de la voie professionnelle.
Alors, Prisca Kagoat, ce changement d'image, il est au cœur de votre livre de l'indocilité des jeunesses populaires, qui est une longue enquête que vous avez menée en tant que sociologue dans les lycées professionnels depuis, je crois, 2016, pour la première fois où vous avez travaillé dans ces lycées professionnels pour essayer de comprendre quelle était la motivation de ceux qui y travaillaient, mais aussi quel était le but de ceux qui y entraient. Et vous parlez de tout cela en disant qu'il y a une disqualification sociale et scolaire, qu'il faut effectivement, c'est une filière de relégation, qu'elle est mal vue, cette filière professionnelle. Qu'est-ce que vous en dites quand vous titrez votre livre de l'indocilité des jeunesses populaires? Parce que ce sont les jeunesses populaires, dites-vous, qui sont présentes majoritairement dans ces lycées professionnels.
Oui, alors effectivement, à travers le titre, ce que j'essaie de dire, c'est 2 choses qui sont d'ailleurs en résonance avec le petit reportage que vous venez de diffuser, c'est-à-dire que souvent les apprentis, les élèves de lycée professionnel sont perçus comme passifs, soumis, comme intériorisant docile l'ordre dominant. Et ce que j'essaie de démontrer à travers mon ouvrage, c'est que ces jeunes sont absolument pas soumis, qu'ils ont même une réelle sagacité sociologique pour déconstruire leurs conditions et pour exprimer leur colère, parce que ils ont une grande colère aujourd'hui.
Oui, et cette colère, vous en témoignez tous les jours d'une certaine manière, Milena Fissier-Hénard, en tant que professeure de lettres, histoire, géographie au lycée Paul Langevin de Sainte-Geneviève-des-Bois, vous la percevez. C'est un lycée qui est spécialisé, parce qu'il faut peut-être préciser cela depuis le départ, dans les filières tertiaires, parce qu'il y a des lycées professionnels de tout genre, où il y a à la fois les filières tertiaires, mais aussi des filières professionnelles plus industrielles, d'une certaine manière, ce qui n'est pas le cas du vôtre. Et qu'est-ce que cela change, d'une certaine manière, de vous trouver en tant que professeur, justement, de culture générale, histoire, géographie, lettres, dans un lycée professionnel, face à ces lycéens et lycéennes?
Alors, on a évoqué au début de l'émission le poids des filières tertiaires dans la globalité des enseignements professionnels. Ces filières tertiaires, elles ont aussi été créées parce que ce sont des filières peu coûteuses à ouvrir. Elles ne nécessitent pas d'atelier. Il vous suffit de mettre 30 élèves dans une classe face à un enseignant qui va faire un cours de vente, de commerce ou d'accueil. Et elles sont du coup, elles ont été, je pense, ouvertes aussi dans cette optique-là. La colère des élèves, on la voit, on la ressent aussi sur des questions d'orientation. Je vais faire un court bilan de la réforme de la voie professionnelle qui avait été
2018-2019
initiée par Monsieur Blanquer, effectivement. Et dans cette réforme de la voie professionnelle, on voit apparaître la mise en place de familles de métiers, donc ces regroupements de plusieurs filières en seconde. Alors moi, dans mon établissement, ça se traduit très concrètement par une branche métier de la relation client, où les élèves sont tous ensemble en seconde et ensuite sont amenés à choisir entre l'accueil, la vente ou le commerce. Alors, il faut savoir que les élèves qui arrivent dans cette filière de métier de la relation client sont souvent des élèves qui ont déjà subi une orientation.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément choisi.
Exactement. Qui n'ont pas choisi leur orientation, qui avaient d'autres volontés à la fin de la troisième et qui, au final, sont mis là parce qu'ils n'avaient pas soit le niveau pour aller en général, soit pour d'autres raisons. On a aussi beaucoup d'élèves allophones ou... qui maîtrisent peu la langue. Mmh. On a aussi des profils qui sont très variés en lycée professionnel et donc qui subissent beaucoup leur orientation en seconde MRC. Ensuite, on leur demande de choisir en première entre vente, accueil et commerce. Et vient une deuxième phase où on leur impose encore une orientation parce que on remarque, nous, qu'ils veulent plutôt faire vente ou commerce, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Et donc, on finit par les orienter aussi par défaut vers la filière accueil qui est peut-être un peu moins attractive, en tout cas pour eux. Et ça crée encore beaucoup de frustration et un fort sentiment d'injustice, le fait de ne pas pouvoir choisir son avenir professionnel et d'être orienté par défaut, quoi.
Alors ça, c'est une des questions que vous voulez prendre à bras-le-corps en tant que ministre délégué auprès du ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion et du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Carole Grandjean, en disant qu'effectivement, il faudrait plus de choix de la part des élèves. Mais qu'est-ce qui empêche ce choix et qu'est-ce qui, d'une certaine manière, fait que ça n'est pas possible que ces élèves puissent choisir en troisième, justement, cette orientation qu'ils préféreraient plutôt que d'être orientés de force, d'une certaine manière, dans des filières qu'ils ne souhaitent pas emprunter?
Vous savez, cette question de la mauvaise perception de la voie professionnelle, je crois profondément qu'elle n'est pas inéluctable. Vous savez, en début du mandat précédent, on nous disait que l'apprentissage, depuis des années, on cherchait à le promouvoir et que nous n'y ferions rien et que nous poursuivrions dans ce même chemin d'un apprentissage qui restait stigmatisé. Aujourd'hui, l'apprentissage, il est choisi.
Enfin, il est choisi.
Il est choisi.
On est d'accord, il est choisi, mais il est choisi, par exemple, par des...
C'est une vraie réussite.
Oui, mais c'est une réussite, d'accord, c'est ce que dit tout le gouvernement, mais simplement, c'est une réussite qui touche aussi des classes privilégiées, qui aussi choisissent, et il y a aussi 30% de gens qui viennent de classes privilégiées, qui choisissent cet apprentissage, pas simplement les classes les plus populaires. Alors, ce dont nous parlons avec les lycées professionnels...
Pardonnez-moi, je vais juste terminer ça. L'apprentissage, il est largement popularisé dans toutes les couches sociales et c'est un vrai instrument d'insertion professionnelle. On a 70% de taux d'insertion professionnelle par l'apprentissage et c'est pour ça que nous voulons aller vers 1 million d'apprentis. C'est parce que c'est une vraie réussite et qu'il permet l'insertion professionnelle. Et donc, on a changé l'image de l'apprentissage. Ce qu'on veut faire aujourd'hui avec le lycée professionnel, c'est changer cette image du lycée professionnel et en faire une voie de choix, une voie d'excellence. Excellence, il n'y a rien d'inéluctable là-dedans. Derrière, nous sommes prêts à investir et en réponse avec ce qui vient d'être dit, évidemment qu'accompagner certaines transformations voudra dire investir dans la voie professionnelle. Mais pas qu'investir dans les plateaux techniques qu'on vient d'évoquer. Investir dans le temps que nous pouvons accorder aux professeurs pour qu'ils puissent accompagner mieux les élèves et leurs fragilités. Accompagner de l'investissement aussi parfois sur des capacités aussi à accueillir les élèves, notamment en internat, etc., etc. Au fond, ce que je veux vous dire par là, c'est que quand on fait de la découverte des métiers, on fait ça, on prépare et on évite l'orientation subie. Quand on réforme la voie professionnelle, on fait ça aussi. Quand on accentue l'apprentissage, on fait ça. Quand on forme tout au long de la vie, on fait ça. C'est-à-dire préparer des jeunes à s'insérer, à s'ajuster au monde économique et à répondre aux besoins économiques et sociaux de la nation.
Prisca Kergoat et puis Milena Ficiena ensuite. Prisca Kergoat.
Oui, alors peut-être préciser sur la question de l'apprentissage. Alors effectivement, lors de la campagne présidentielle, la dernière campagne présidentielle, Emmanuel Macron disait vrai hein, quand il mettait en avant la très forte progression du nombre d'apprentis. Mais ce qu'il ne dit pas et ce qui me semble devoir être rappelé, c'est que cette progression s'effectue d'abord auprès d'un public adulte. Et dans les lycées professionnels, on est aujourd'hui sur des élèves qui sont de plus en plus jeunes, hein, 14-15 ans
c'est
en moyenne.
Il faut insister sur cette question-là, la précocité effectivement de ces orientations professionnelles pour les jeunes élèves. Ils ont entre 14 et 15 ans quand ils rentrent dans ces filières.
Voilà, et ça c'est effectivement lié à l'arrêt des redoublements. Hein, qui a sans doute eu des effets bénéfiques, mais qui aujourd'hui hein, conduit les élèves de lycée professionnel à être de plus en plus jeunes. Donc là où je souhaitais quand même revenir, c'est que cette progression importante, hein, c'est réel, de l'apprentissage, elle s'est fait d'abord sur un public adulte, en tout cas sur ces dernières années, c'est très net, et elle s'est effectuée aussi, cette progression, sur l'enseignement supérieur. Aujourd'hui,
on connaît beaucoup de gens qui sont à Assas, à la Sorbonne et qui sont en carrière d'apprentissage. Effectivement, ce nombre-là, ça n'est pas négligeable, effectivement, pour pouvoir dire qu'effectivement, ce sont des gens qui sont déjà arrivés dans ce supérieur et qui ne sont pas en dessous du supérieur.
Oui, c'est extrêmement important à rappeler parce que cette progression, elle s'est pas faite sur le secondaire. Elle s'est pas faite sur le bac pro et sur le CAP qui stagnent. Hein, et qui n'ont pas du tout, qui ne se s'est pas envolé ces dernières années. Donc ça s'est fait sur l'enseignement supérieur. Je disais 6 apprentis sur 10 sont des étudiants. Et le plus gros consommateur d'apprentis, c'est les grandes écoles.
Carole Grandjean veut vous répondre et je donne tout de suite la parole à Milena Fissier-Hénard. Mais Carole Grandjean.
Très brièvement, permettez-moi quand même d'apporter quelques chiffres. On a 42% d'augmentation d'apprentis dans le lycée professionnel. On a 60 000 apprentis aujourd'hui. C'est une énorme évolution. Et évidemment, les jeunes sont plus jeunes et avec un certain nombre
sur
de difficultés.
Sur 306 000 apprentis. Hein,
sur 650 000, sur 650 000 lycéens, on a 60 000 apprentis. Et sur effectivement un peu plus de 700 000 apprentis, on a 60 000 apprentis en lycée pro. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, les élèves sont plus jeunes, mais l'apprentissage existe déjà dans les lycées professionnels. Et ce que je voulais dire également, c'est que je ne suis pas complètement d'accord avec ces chiffres qui sont avancés. On est passé de 180 000 à 280 000 apprentis bac et infrabac, ce qui montre qu'on a quand même une vraie augmentation pour ces niveaux de diplôme. Évidemment, elle est moindre en termes de proportion par rapport au supérieur, puisque jusque-là, il ne faisait pas d'apprentissage.
Oui, alors justement, Milena Fissier-Hénard, en tant que professeure de lettres, histoire, géographie au lycée Paul Langevin de Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, est-ce que vous vous apercevez justement de cette concurrence entre apprentissage et lycée professionnel? Est-ce que c'est présent chez les élèves que vous avez? C'est-à-dire de se dire, on ne sait pas très bien quelle est la formation que l'on pourrait avoir. Est-ce que c'est le lycée pro? Est-ce que c'est les CFA, etc., etc.?
Alors oui, ils y pensent, mais surtout ils y pensent surtout après le bac. Mais je vais revenir sur les chiffres mirobolants d'insertion professionnelle après un apprentissage, qui ne prennent pas en compte le fait que énormément d'apprentis ne vont pas au terme de leur contrat d'apprentissage. On a quasiment un apprenti sur 5 qui ne va pas au terme de son contrat d'apprentissage. Et donc, pour moi, le chiffre d'insertion professionnelle est un peu biaisé, surtout que la sélection aussi se fait en amont. C'est pas tout le monde qui accède à un contrat d'apprentissage.
Quelles sont les conditions, selon vous, entre justement lycée pro et contrat d'apprentissage?
Le lycée pro, il accueille tout le monde. Le lycée pro, c'est l'école républicaine. On accueille tout le monde sans distinction de genre, de sexe, d'origine,
de race,
peu importe. Et donc, alors que l'apprentissage, c'est aussi les discriminations à l'embauche. 30% de filles en apprentissage. C'est très discriminant pour certaines catégories d'élèves. Et souvent les ruptures aussi de contrats des élèves sont dues à l'environnement de travail, aux conditions de travail qui sont pas assez formatrices et aux exigences de productivité des entreprises, d'accord ? Ils sont très difficiles.
Carole Grandjean.
Je crois sincèrement qu'il ne s'agit pas d'opposer en fait les deux aspects. Au fond, on peut faire de l'apprentissage en lycée professionnel.
Vous avez pris vous-même l'exemple de l'apprentissage.
Il s'agit très clairement pour moi de dire que l'apprentissage est une modalité pédagogique qui est intéressante et qui permet l'insertion professionnelle et qui répond à des aspirations et aujourd'hui qui a changé d'image. Le lycée professionnel, et c'est vrai, a des élèves plus jeunes qu'auparavant, avec des fragilités dont doivent pouvoir être prises en considération. Et donc, il ne s'agit pas de faire de l'apprentissage pour tous les jeunes. Et vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus. Et travailler sur la qualité de l'apprentissage est une de mes missions aussi, puisque je suis ministre aussi de l'apprentissage. J'ai tendance à dire que je suis ministre du lycée professionnel, de l'apprentissage, de la formation tout au long de la vie. Et évidemment, il s'agit pour moi de travailler sur la qualité de l'apprentissage. Mais ce que je veux vraiment pouvoir dire, c'est qu'il s'agit pour moi d'accompagner le lycée professionnel sur une transformation de son image. Il n'y a pas de raison que ces jeunes s'engouffrent dans des filières qui ne leur permettent pas une insertion professionnelle. Et aujourd'hui, c'est là tout notre défi collectif à pouvoir porter.
Vous dites, Prisca Kagoad, dans votre livre sur l'indocilité des jeunesses populaires, que ce lycée professionnel est pensé et représenté à partir de son public plutôt que par son contenu. La qualification ouvrière et employée est vidée de son sens, reléguant la culture technique et son projet d'émancipation sociale au banc de l'histoire. C'est-à-dire que vous dites, en fait, le lycée professionnel, quand il a été inventé, avant le lycée professionnel, la formation professionnelle a été inventée pour faire de la culture ouvrière une culture d'élite d'une certaine manière. Il y avait les meilleurs ouvriers qui participaient justement à cette création-là et ça n'est plus tellement le cas aujourd'hui. On parle plutôt de son public plutôt que de son contenu. Et son public, on le disait tout à l'heure, c'est un public effectivement qui n'a pas toutes les capacités ou les facilités que peuvent avoir les publics des lycées généraux, voire des filières technologiques, Prisca Kergoat.
Oui, alors effectivement, Madame la Ministre disait tout à l'heure qu'elle souhaitait faire des lycées professionnels une voie d'excellence. Et ben, quand on regarde un petit peu l'histoire de la formation professionnelle, il y a eu des voies d'excellence qui ont été, par exemple, les centres d'apprentissage, hein, qui sont les ancêtres des lycées professionnels, qui ont été créés à la veille de la Seconde Guerre mondiale et qui ont été réorganisés au tout début des années 50 suite aux réflexions menées par le mouvement ouvrier et par les intellectuels français. Et justement, le premier objectif de cette grande transformation, ça a été d'extirper la formation professionnelle de la formation sur le tas en y intégrant une dimension culturelle. Il s'agissait de former en école à la fois des travailleurs compétents, mais aussi des citoyens éclairés, et ce qu'on appelait à l'époque de délivrer un enseignement complet, c'est-à-dire un métier, une culture technique, mais aussi une culture générale qui permettait aux élèves de s'approprier les débats de leur temps. Et malheureusement, je suis amenée à dire que les grandes réformes qui ont succédé, celles des années 70 avec la réforme ABI, puis celle du 80% d'une génération au bac, puis le bac pro, ont finalement conduit à positionner la formation professionnelle et l'enseignement professionnel tout au bas de la hiérarchie scolaire.
On va en discuter, puisqu'on va écouter tout de suite, il est 18h40 sur France Culture, et vous êtes dans le temps du débat, nous parlons de la réforme des lycées professionnels, quelle ambition pour les élèves, en compagnie de Prisca Kergoat, sociologue que vous venez d'entendre, professeur des universités à l'université de Toulouse, Jean Jaurès, de Carole Grandjean, ministre déléguée auprès du ministre du Travail, chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, mais aussi de Milena Fissier-Hénard, qui est professeure de lettres, histoire, géographie au lycée professionnel Paul Langevin de Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. On va écouter Daniel Bloch, qui, sur la chaîne YouTube de l'Éducation nationale, raconte comment il a été chargé en 1985 par le ministre de l'époque, Jean-Pierre Chevènement, de créer justement ce bac professionnel.
Lorsqu'on a fait cette proposition de création du baccalauréat professionnel, c'était dans un texte qui s'appelait « Pour une stratégie convergente de l'école et des entreprises ». Donc, il s'agissait de bien montrer qu'on était sur le même bateau, qu'il ne pouvait pas y avoir une école qui fonctionne bien, dans un cadre économique qui dysfonctionne ou inversement une économie qui fonctionne bien sans que l'école elle-même obtienne les meilleurs résultats possibles. Le deuxième point était que cela avait aussi, au-delà de l'aspect économique, un aspect social. Et nous avons tenu à ce qu'il s'appelle baccalauréat. Parce qu'il faut bien savoir que l'enseignement professionnel, c'est d'abord un enseignement dans lequel se trouve une très grande majorité des jeunes issus des milieux défavorisés. Et donc, donner la possibilité aux élèves de dire qu'ils préparent un baccalauréat professionnel, dire aussi à leur famille que les enfants sont engagés dans un cursus qui va au baccalauréat, c'est quelque chose d'essentiel donc pour tout le monde.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Milena Fissier-Hénard, vous êtes professeure de lettres, histoire, géographie. Quelle place prennent les enseignements généraux, pourrait-on dire, dans l'enseignement des lycées professionnels auprès de vos propres élèves, puisque vous êtes donc au lycée Paul Langevin de Sainte-Geneviève-des-Bois et que vous avez essentiellement 650 élèves, je crois, qui sont tous dans les secteurs tertiaires.
Oui. Alors les savoirs généraux, ils ont été réduits quand même avec la dernière réforme de façon assez conséquente.
Celle d'il y a deux ans.
Oui, celle d'il y a deux ans. Et puis voilà, avec la perte d'heures aussi, quand le bac pro est passé de 4 ans à 3 ans, les élèves de lycée pro ont perdu des centaines d'heures d'enseignement ces dernières années. C'est quand même assez dramatique. Alors ils ont encore du français, de l'histoire, de la géographie, de l'EMC, de la PSE, des arts appliqués, des langues étrangères et tous ces éléments indispensables à la culture générale, et c'est important que ces éléments-là restent, parce que ce qui va nous permettre d'en faire des citoyens éclairés, à même de réagir aux grands défis de la société contemporaine, comme l'écologie, la répartition des richesses, et ce genre de choses.
Et ça, c'est effectivement une des craintes de ceux qui manifestaient, et de celles qui manifestaient le 18 octobre dernier, et qui vont remanifester le 17 novembre, des enseignements de lycée professionnel, des enseignants de lycée professionnel, qui craignent que cette augmentation des stages à l'intérieur de ce projet donc présidentiel et que vous managez en tant que ministre, Carole Grandjean, ce projet donc de réforme du lycée professionnel fasse trop de place aux stages et beaucoup moins de place justement non seulement aux enseignements professionnels mais aux enseignements généraux.
Au fond, je crois que le président de la République, la première ministre, monsieur le ministre de l'Éducation nationale et moi avons toujours été très clairs sur le sujet, nous l'avons dit et redit. Il s'agit pour nous d'asseoir clairement les enjeux de savoirs fondamentaux, de culture générale, de citoyenneté. Ils sont pour nous essentiels et d'ailleurs, je vais vous dire...
Mais comment faire au milieu de toutes ces
heures? Je vais vous dire quelque chose. Je pense que les chefs d'entreprise, et d'ailleurs ils nous le disent, ils veulent aussi des citoyens éclairés qui arrivent dans leurs entreprises. Donc je crois qu'il n'y a pas de, il y a pas d'opposition en fait dans cet attachement-là. Et pour autant, on a,
il y a des emplois du temps tout de même
qui vous disent d'ailleurs tous, moi j'ai pas un seul jeune quand je les croise et quand on échange sur leur parcours qui me disent qu'ils n'ont pas envie de plus de stages et qu'ils n'ont pas trouvé beaucoup de sens dans les stages qu'ils ont pu effectuer. Et donc je crois que l'un ne s'oppose pas à l'autre et qu'effectivement quand on est dans une voie professionnelle, on doit pouvoir trouver du sens aussi à mieux connaître le métier et à mieux être en capacité de s'insérer dans le métier. Et donc l'un ni l'autre ne sont pas opposés et il nous faut pouvoir effectivement trouver les modalités et je l'ai dit au moment où j'ai ouvert les groupes de travail, il nous faut pouvoir trouver
4 groupes de travail que vous avez
4 groupes de travail pour travailler contre le décrochage scolaire et on en a trop, contre ce phénomène d'insertion professionnelle qui est insuffisant, pour faciliter les poursuites d'études et pour permettre des initiatives pour les établissements. Les tout en maintenant le caractère national des diplômes.
Les stages, tout de même, c'est, ce sont des stages souvent gratuits. Je sais qu'il y a la proposition de les rémunérer légèrement.
Mais
par rapport à l'apprentissage, ça n'est pas du tout la même chose, puisque l'apprentissage que vous évoquiez tout à l'heure...
Non, ça n'a rien à voir.
Voilà, ce sont des salaires, même si ce sont des salaires qui sont réduits par rapport au salaire minimum, ce sont des salaires, alors que là, ce sont des gratifications. Ça n'est pas tout à fait la même chose.
C'est pas la même chose.
Milena Fissier-Hénard et puis Prisca Kergouat. Milena
Fissier-Hénard. Alors moi, je voulais réagir à cette augmentation des périodes de stage. Qui viendrait remplacer, j'imagine, parce qu'on peut pas à un moment donné les faire travailler la nuit non plus, des moments d'enseignement professionnel au sein du lycée pro. Alors, faut sortir un petit peu de cette fausse idée que l'entreprise formerait mieux que l'école. C'est complètement faux. Les enseignants de matières professionnelles, comme ça a été dit dans votre reportage au début, sont quasiment tous issus du milieu professionnel et font suite à des reconversions. Donc, ils sont pleinement conscients des diverses missions et tâches auxquelles vont être confrontés les élèves. Ils ont la possibilité, quand ils les forment dans le milieu scolaire et à l'école, de les former à tout un panel de tâches et de missions très larges et de leur donner des qualifications qui vont après leur permettre de rebondir et de s'adapter au marché du travail, ce qui ne va pas forcément être le cas aussi en entreprise où un élève stagiaire en entreprise va être formé aux tâches et aux missions dont l'entreprise aura besoin immédiatement pour faire tourner l'entreprise. Donc il y a déjà aussi une réduction de la formation et beaucoup moins de qualifications. Et je rajouterais un point à cet argumentaire contre l'augmentation des PFMP, c'est que l'entreprise...
PFMP, dites-le.
Des périodes de stage en entreprise, c'est que l'entreprise est un lieu dangereux pour les élèves. On voit que le taux d'accident de travail chez les apprentis et les jeunes est beaucoup plus élevé que chez la moyenne des salariés. On voit que les apprentis représentent 50% des accidents de travail des salariés de moins de 20 ans. D'accord ? Il y a vraiment une surreprésentation des apprentis dans les accidents du travail. Et aussi, donc, il y a un problème de conditions de travail qui est lié à leur statut. Mais aussi, il y a des discriminations à l'embauche dont on a parlé tout à l'heure. Et sans parler des violences sexistes et sexuelles qui peuvent subir dans l'entreprise. Chaque lycée professionnel a une blacklist, une liste noire d'entreprises avec laquelle ça s'est mal passé avec des élèves et donc on n'envoie plus les élèves.
Qu'est-ce qu'on fait de ça, Carole Rangin? Parce que c'est une remontée du terrain.
Si on doit travailler sur la qualité des stages et notamment de la relation avec les entreprises, c'est probablement une évidence. Mais pour autant, attendez, ces jeunes, ils sont en voie professionnelle. Ils sont là pour apprendre un métier en plus d'être accompagnés dans leur citoyenneté. Il faut arrêter d'opposer les sujets. On n'est pas là pour faire des futurs chômeurs, on est là pour les accompagner dans leurs projets professionnels et leur permettre de s'insérer professionnellement. On est là pour les aider à bien comprendre le métier, à bien comprendre les codes de l'entreprise, à bien grandir aussi et donc à avoir effectivement des savoirs fondamentaux qui leur permettront de s'ajuster aux évolutions du monde du travail de demain. Évidemment. Et cessons d'opposer les deux. Les savoirs fondamentaux sont nécessaires, mais les périodes.
Non, mais ça pose juste la question. En doublant le temps de stage, on se demande où se passeront les cours fondamentaux dont ils ont besoin aussi, d'une certaine manière. Ça va être assez compliqué de trouver
l'emploi. Les modalités vont être discutées, mais je pense que, très honnêtement, les groupes de travail vont réfléchir à comment est-ce que ces stages vont pouvoir être mis en œuvre et organisé, articulé avec les cours. Et je crois vraiment qu'ils il y a plein de propositions à faire sur le sujet.
Prisca Kergoat, dans votre travail qui est tout à fait passionnant, qui s'appelle « De la docilité des jeunesses populaires », vous insistez sur des choses, par exemple, qui sont très pratiques d'une certaine manière. Vous dites, ces élèves, ils ont entre 14 et 15 ans, et quand ils commencent justement à faire leur lycée professionnel, quand ils font leur stage, eh bien, ils se retrouvent dans des situations où ils sont orientés, quand c'est des filles, ce sont des filles, plutôt vers un type de métier, des métiers de l'accueil, on le disait, des métiers du soin, les métiers du care, où la répartition genrée est assez probante d'une certaine manière. De l'autre côté, les garçons sont orientés vers des métiers où il y a la question de force, etc. On parlait à l'instant avec Milena Fissier-Hénard des questions d'accidents du travail possibles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire effectivement que, par exemple, de se retrouver en tant que jeune fille, parce que 14 ou 15 ans, à faire des soins à des personnes âgées, à faire des soins effectivement, voire des soins mortuaires un peu plus tard, donc se retrouver face à des difficultés de se positionner en tant que jeune adulte, à peine jeune adulte, face à des métiers qui sont extrêmement difficiles.
Alors oui, effectivement, hein, sur les 2000 jeunes élèves et apprentis que nous avons interrogés, on a près de la moitié qui formule un fort sentiment d'injustice. Et en premier lieu, la première expérience d'injustice qui désigne, c'est l'orientation. Et après l'orientation, c'est la question des stages et de la confrontation au travail. Donc je suis un petit peu étonnée que Madame la Ministre nous dise que tous les élèves valorisent les stages. En tout cas, moi, c'est pas les propos qu'on a recueillis tout au long de ces 6 ans d'enquête. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent déjà qu'ils critiquent la jonction à choisir. Ils disent que l'institution scolaire ne leur a pas laissé à eux le luxe de prolonger leur jeunesse. Et finalement, ils affirment qu'on les dépossède de leur jeunesse, qu'on leur vole leur jeunesse, qu'on les oblige à vieillir. Et ils sont effectivement face à des situations de travail, qui éprouvent le corps, alors de manière extrêmement classique, par le biais des produits toxiques, des poids, des postures, etc. Ça éprouve le corps également parce que les trajets sont souvent très longs entre.
Il y a des questions de géographie aussi qu'il faut rappeler effectivement entre les lycées qui ne sont pas toujours très proches des lieux où ils doivent faire des stages, et ça c'est une vraie question, oui, effectivement.
Voilà, on a effectivement des élèves qui ont 2 à 3 heures de trajet au quotidien pour rejoindre leur lieu de stage. Et puis, il faut rappeler aussi que ces jeunes sont confrontés plus que les adultes. Et plus que les apprentis du haut, aux horaires excessifs, au travail de nuit, à l'exposition aux produits toxiques. Et peut-être, là où je souhaiterais peut-être insister, c'est que souvent, les conditions de travail auxquelles sont confrontées les adolescentes, qui, je rappelle, ont souvent 14 ou 15 ans, elles sont finalement peu encadrées par la législation. Et je pense en particulier aux formations, par exemple, en atelier, en esthétique, où les filles doivent se déshabiller et s'exposer au regard des autres pour s'entraîner à l'épilation. Je pense aussi aux jeunes esthéticiennes dans les instituts d'esthétique, à qui on demande de faire des massages de fesses, des fois et parfois sur des hommes, ou encore dans les soins et services à la personne, où là encore, elles sont souvent positionnées lors de leur stage en maison de retraite, et où la première tâche souvent qui leur est confiée, c'est de faire la toilette aux personnes âgées et parfois même, vous le disiez, pratiquer des toilettes mortuaires.
Alors, Carole Grandjean vous répond sur ces questions-là parce que ce sont des questions extrêmement pratiques et même tout à fait, très aiguës, pourrait-on dire.
Beaucoup de sujets, donc je vais essayer de répondre à plusieurs sujets. Sur le sujet découverte des métiers, c'est essentiel pour nous parce qu'effectivement, une des raisons au taux de décrocheurs et à la difficulté aussi de ces jeunes à s'insérer, c'est que quand bien même parfois ils sont diplômés, ils ne souhaitent pas s'insérer dans l'emploi pour lequel ils ont été diplômés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été orientés là de manière subie. Donc un vrai enjeu pour nous de travailler sur la découverte des métiers et pour leur permettre de faire un choix éclairer. C'est pas facile en troisième de faire un choix d'orientation.
Et donc, c'est pour important. Les lycéens de lycée généraux.
Exactement, mais pour tous nos jeunes. Et déjà, on le sait bien, même plus tard. Donc, à quel point le sujet de découverte des métiers est essentiel pour nous. Dire aussi à quel point dans les concertations, et j'en fais à deux titres, hein, dans les groupes de travail, mais aussi dans les concertations locales. Et dans les concertations locales, il faut savoir que dans les concertations, les lycées qui se sont emparés de la concertation, un lycée sur deux est d'un lycée professionnel. Les jeunes s'expriment. Hein, quand je m'exprime et quand je dis que je parle aux uns et aux autres, c'est que je me déplace, je vais discuter avec les uns et les autres et que je les entends. Et évidemment, ils ont leur place dans mes groupes de travail pour pouvoir exprimer leurs pensées. Ce qu'ils disent, au fond, c'est nous, si on est orienté avant pour un choix éclairé, ça nous irait, parce qu'en fait, s'orienter sur un métier dont vous savez que vous n'avez pas envie de le faire plus tard, c'est évidemment extrêmement frustrant, d'où le décrochage, d'où le taux d'insertion qui ne va pas.
Et sur et la question...
Ensuite, travailler sur la qualité des stages, et ça c'est des périodes de formation en milieu professionnel. Donc, ce sont donc des périodes de formation hein, accompagnées par les entreprises, c'est essentiel. Il faut que celui-ci ait un sens, il ait des conditions qu'il permette véritablement d'apprendre un métier à des jeunes, et c'est bien là aussi le défi de la gratification des stages, de la valorisation des stages.
Gratification de 200 euros pour...
Alors, on n'a pas annoncé de chiffres. Donc
moi, j'ai eu ça pour un mineur et de 500 euros pour les gens qui seraient majeurs. C'est
nous
pas
n'avons
ça
pas, non, nous n'avons pas du tout avancé de chiffres.
On le saura plus tard à la fin de ces ateliers de réflexion. Milena Officiena.
Oui, alors moi je voudrais revenir, vous parlez
beaucoup... On arrive 3 minutes pour finir l'émission.
Vous parlez beaucoup de décrochage, Madame la Ministre, mais je pense qu'il faut avoir vraiment conscience de la réalité du terrain, de ce qu'on vit avec nos élèves tous les jours. En tertiaire, on a 30 élèves par classe. Le lycée pro, il accueille tout type d'élèves. On a vraiment des profils qui sont très divers, des élèves qui n'avaient pas forcément le niveau pour aller en général après la troisième, des élèves allophones qui ont été placés dans nos classes parce qu'ils maîtrisent pas bien la langue, et aussi ça vient du fait que les filières du PE2A qu'avant on pouvait faire
PE2A.
UPE2A, c'est les filières pour les primo-arrivants où on apprend la langue avant de les réinsérer dans les classes. Avant, ces filières-là, elles étaient suivies par les élèves jusqu'à ce qu'ils puissent se réinsérer. Maintenant, ils ont droit à une seule année scolaire. Donc, du coup, on les récupère aussi en lycée professionnel. On a des élèves qui sont pas scolaires, qui seraient plutôt aussi un petit peu des artistes, et qui, parce qu'ils sont pas scolaires, ont été placés dans le lycée professionnel. Et on a aussi de plus en plus des élèves en situation de handicap, car il n'y a plus assez de place dans les REA, les IME, etc., et que les établissements spécialisés ferment. Et tous ces élèves-là,
c'est tout le sens de la réforme qui est la nôtre.
Et tous ces élèves-là doivent fonctionner ensemble dans la même classe à 30, et le lycée professionnel ne peut pas avoir comme seul but l'insertion professionnel de ses élèves. Il doit avoir aussi pour but de les émanciper
que nous devons
et de les insérer dans la société autre que
pour
professionnellement.
Accompagner cette typologie d'élèves et ses difficultés et ses fragilités.
Si on parle de décrochage, je pense pas qu'on puisse lutter contre le décrochage à 30 par classe, Madame la Ministre. Je pense qu'il faudrait revenir sur l'éducation prioritaire. Je pense que c'est quand même assez scandaleux que les lycées pro ne bénéficient plus de l'éducation prioritaire. On a besoin aussi de demi-groupes et de moyens supplémentaires pour accompagner nos élèves.
Oui, Carole Grandjean.
Au fond, vous appelez de vos voeux un certain nombre de modalités, d'investissements, de capacités à dédoubler des classes, à trouver des solutions aussi plus agiles pour répondre aux difficultés des élèves. Et c'est tout le sens de la réforme. Donc, merci pour cette interpellation. Évidemment que nous en sommes conscients et que nous souhaitons, comme vous, y répondre et vous donner les moyens
pour
que dans votre métier d'enseignant, vous puissiez être en réussite pour accompagner ces élèves vers une réussite.
Ça n'apparaît pas dans vos propositions.
C'est pour quand bientôt? Alors donc il faut attendre le mois de décembre.
Alors les groupes de travail travaillent jusqu'à la fin décembre et ensuite on va travailler encore en sous-groupe sur les modalités pour les faire émerger. Allez, au printemps prochain, on sera en mesure de donner des contours.
Pour une rentrée 2023?
Encore une fois.
Et est-ce que ça serait la rentrée 2023?
Qui va entrer en vigueur progressivement parce qu'il y a des modalités qui pourront rentrer dès 2023 et d'autres plus progressivement.
Merci à vous d'être venu, ministre délégué auprès du ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion et du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, chargé de l'enseignement et de la formation professionnelle, Carole Grandjean. Merci à vous, Milena Officier-Hénard, d'être venu. Vous êtes professeur de lettres et histoire-géographie au lycée Paul Langevin de Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. Et à vous, Prisca Kergoat, vous étiez depuis France Bleu Toulouse. Vous êtes sociologue, professeur des universités à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Vous êtes également directrice du Centre d'études de recherche du travail, organisation et pouvoir et autrice d'un livre qu'il faut lire sur cette question-là, de l'indocilité des jeunesses populaires, apprentis et élèves de lycée professionnel aux éditions La Dispute qui vient tout juste de sortir. C'était le temps du débat préparé ce soir par Fanny Richer, Balthazar Sibiu, Mathias Mégy, Stéphanie Villeneuve, Cécile Bidou, réalisé par Françoise Le Floch avec à la technique Jacques Hubert et merci à France Bleu Occitanie pour la liaison avec le studio de Toulouse. Vous pouvez réécouter ce temps champ du débat sur le site internet de France Culture, sur l'application Radio France. Et demain, rendez-vous à 18h20 pour une émission consacrée aux élections de mi-mandat aux États-Unis. Nous nous demanderons si la démocratie américaine est toujours debout.